en deux noirs, deuxième partie. Voilà, et bien on espère une seconde partie sereine et tranquille. Après une première partie un petit peu bousculée, mais ça s'est bien terminé. Nous avons pu avoir Sophie des éditions Mirobol. Jacques, on va parler... Ah, je ne sais pas par lequel tu commences.
Je commence par un Barcelonais. Un nouveau venu dans la littérature policière. Il s'appelle Tony Hill. Tony avec un I et pas avec un Y. Le roman dont on va parler s'appelle « L'été des jouets morts ». Très beau titre. Et il est paru aux éditions Flammarion. Et il est traduit par Thomas Delouze. Alors, je disais que ça s'appelle « L'été des jouets morts ». Et ben, il n'y aura pas que les jouets qui vont mourir, puisque juste après le prologue, qui raconte la mort de la jeune Iris au milieu de ses poupées, dans une piscine, c'est ça les jouets morts. La police de Barcelone va enquêter sur le suicide présumé d'un jeune homme, un jeune homme de bonne famille, qui est tombé de son balcon, enfin du balcon de la maison de ses parents, la nuit de la Saint-Jean. Et c'est Hector Salgado, tout juste rentré d'un exil forcé en Argentine, qui va se charger de l'enquête. Plus pour rassurer la mère que pour vraiment faire une enquête, puisque en fait le suicide semble avéré. Mais au cours d'une enquête précédente, qui lui a valu d'être exilé en Argentine, comme je le disais, en fait il avait tabassé plus que violemment un suspect qui était plus que coupable, mais malgré tout ça se fait pas. D'où son départ pour l'Argentine, dont il était originaire, pour un peu calmer le jeu, quoi, disons, pour éviter des sanctions trop sévères. Alors évidemment, ce n'a pas arrangé son couple, ni amélioré les rapports avec son fils, adolescent. Mais Hector, c'est un bon flic, et du coup, il prend cette enquête, même si elle semble toute faite, il apprend cette enquête à cœur, et il va vite débusquer des incohérences dans le récit des témoins du suicide. Alec, qui est le meilleur ami du suicidé, donc, et Gina, qui est l'ex-petite amie, encore très amoureuse. Mais malgré tout, son coup d'éclat précédent, son coup de colère en fait, le poursuit et va bien sûr interférer dans cette enquête du moment. Alors le lecteur de Polar averti, vous l'êtes sûrement si vous nous écoutez, se doute forcément que Iris, la petite du départ, va revenir sur le devant de la scène. Mais Tony Hill, en fait, sait très très bien ménager à la fois le suspense et tenir ses lecteurs aux aguets jusqu'à la 350e et dernière page. Je vous raconte pas plus de l'histoire, vous la découvrirez vous-même. C'est très très bien écrit, sans grands effets de style, mais avec une très belle plume et une très belle langue. Et c'est un premier roman. Tony Hill est aussi en fait dans la vie, avant de décrire ce livre, il a été pendant une dizaine d'années traducteur, entre autres de Peter May, dont on vous a parlé ici. Donc ça fait qu'il connaît aussi le roman policier et d'autres littératures. Son flic, Hector, est tout de suite sympathique. Bon, d'accord, il a des casseroles.
D'abord, il est flic, il ne peut pas être tout de suite sympathique. Mais bon, pardon.
C'est vrai. Mais dès les premières pages, il est sympathique. Il est divorcé, mais ce n'est pas non plus, pour le moment, comment dire, un Harry Hall ou un Jack Taylor.
C'est-à-dire qu'en fait, son divorce ne l'a pas mis à la ramasse, quoi. C'est
voilà,
ça que tu veux
c'est
dire.
Ça. Il reste encore très, très sobre. De plusieurs façons. Sa partenaire, par exemple, une de ses partenaires dans la police, évidemment, le trouve, je cite, « tranquille, taciturne, mais solide ». Ça nous donne une bonne idée de ce qu'il est. Tony Hill confère même à son héros un petit peu d'autodérision. Alors, je vais lire une petite citation. C'est vers la fin de l'enquête, ou deux tiers. « Il resta seul jusqu'à la fermeture. Il est dans un bar, comme ses piliers de bar » qui rechignait à rentrer chez eux le soir. Pourtant, les mojitos ne lui faisaient aucun effet ce soir-là. Il songea avec ironie que les héros de cinéma boivent du bourbon et du whisky. Et même là, il n'était pas à la hauteur.
Là, on découvre le mojitos. Donc.
Voilà. Il boit du mojitos, mais pas que ça, beaucoup de café. Les personnages secondaires sont aussi très bien caractérisés. On sent le potentiel de la brigade, en fait. Enfin, c'est un commissariat, mais la brigade, pour faire allusion
À Ed McBain, par exemple.
Voilà. Il y a, bon, le chef, c'est le commissaire Saval. Il y a deux femmes, sergent et inspectrice, qui ont déjà bien pris leur place et qu'on sent qu'ils vont en avoir plus, probablement, dans les prochains romans. L'auteur rend aussi très bien la touffeur de la ville de Barcelone en été. Ce sentiment d'écrasement qui ralentit les mouvements et même les pensées, et qui finit presque par nuire à l'enquête, si ce n'est le fait qu'elle affecte aussi les témoins, donc ça compense un petit peu. Les témoins ou les coupables, présumés ou réels. Le fait, comme tout le monde est un petit peu... Tout le monde est un petit peu pris sous cette chaleur, donc en fait, tout le monde réagit très lentement. En plus, habilement, bien qu'ayant clos l'enquête à la fin du roman, je vous le dis tout de suite, il en trouve une porte, dans les dernières lignes, sur le prochain, en happant déjà son lecteur pour...
prochain épisode.
Pour le prochain épisode. Voilà, alors, on ne peut pas dire que ce soit le nouveau Mendes ou le nouveau Pepe Carvalho, puisque tous les deux des... enquêteur barcelonais, mais Héctor Salgado prend dès ce premier roman, disons, sa place dans la fine fleur des enquêteurs catalans. Donc je rappelle, L'été des jouets morts de Tony Hill chez Flammarion.
As-tu cité le traducteur ?
Oui, Thomas Delouze, voilà. Avec deux O.
Donc tout à l'heure, j'avais commencé à vous parler des audiolivres. Qui sortent et qui sont donc une autre manière de lire, on va dire ça comme ça. Donc
lire avec les oreilles.
Voilà, deux audiolivres dans une belle collection qui s'appelle Écouter lire de chez Gallimard, deux livres que nous recommandons et qui sont aussi évidemment sous format papier. Donc il y a Mapuche de Caril Ferré qui est paru il y a pas longtemps en format poche puisqu'il est sorti il y a deux ans. C'est un roman qui est lu par Féodor Atkin, un grand comédien, et on a plus de 14 heures d'écoute pour découvrir Ruben et Yana, ou Jana, je sais pas, deux fantômes que la dictature argentine a brisés, broyés. Ce sont les deux personnages principaux du roman de Caril Ferré. Quand une amie de Rana disparaît à son tour, ils vont retomber en enfer puisque les tourmenteurs d'hier n'ont pas vraiment disparu. C'est aussi pour découvrir le destin de ces aborigènes, les Mapuche, cette ethnie chilienne exilée en Argentine. Voilà, un excellent roman qu'on avait beaucoup défendu à l'époque. Donc, vous pouvez maintenant l'écouter. Autre audio-livre. Alors là, Gallimard a choisi de sortir en même temps le roman, le dernier roman de John Nesbø, et en même temps l'audio-livre. C'est, ça s'appelle...
Police.
Police, donc, au singulier. Et livre et audio-livre racontent donc une histoire de John Nesbø, qui est un écrivain norvégien.
Voilà, la 10e enquête de Harry Hall.
Alors oui, justement, au 9e, à la fin du 9e, à la fin de Fantôme, on ne savait pas si Harry Hall était mort ou pas.
Il était super mal en point, et il n'est toujours pas terriblement bien dans le premier chapitre. Et le reste, on en reparlera dans une autre émission, très certainement.
Voilà, exactement. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que là, c'est carrément 18 heures d'écoute que vous avez, plus de 18 heures d'écoute, et les mots de l'écrivain norvégien sont lus par Frédéric Dimnay.
Voilà, qui avait déjà lu le précédent Fantôme qui était paru aussi l'an dernier en même temps que...
La collection, donc Écoutez lire chez Gallimard, c'est des beaux cadeaux à faire, ça je trouve, des audiolivres, ça change un petit peu. Une minute pour vous parler de l'événement polar de l'année. L'événement polar, c'est Quai du Polar.
Enfin, de la saison.
De la saison, mais même dans l'année, on peut rarement avoir cette palette d'auteurs dans un même endroit. C'est à Lyon, ça s'appelle Quai du Polar, ce sera du vendredi 4 au dimanche 6. Mais les Lyonnais ont déjà pu avoir de nombreux événements. Vous dire ce qui va s'y passer, c'est impossible. Il y a 30 pages d'événements. Entre les tables rondes, ça se passe partout dans la ville, l'opéra, les cinémas, l'Institut Lumière, tout le polar investit la ville de Lyon.
80 auteurs.
Plus de 80 auteurs. Alors, on va vous en citer quelques-uns.
13 nationalités représentées, si je peux
bravo
me permettre.
Jacques. Donc, 13 nationalités. Et je vous cite les deux invités d'honneur, l'auteur, le romancier du polar, un des meilleurs au monde, James Ellroy en personne sera là pour signer ses romans. Et puis, dans la veine du polar nordique, nous est arrivée la très jolie Camilla Lindberg, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Elle est publiée chez Actes Sud, donc vous pouvez la rencontrer. Mais dans le désordre, et j'en oublie plein, des auteurs dont on vous a déjà parlé. Par exemple, Jacques vous a parlé d'un livre d'Alfredo Noriega. On vous a parlé récemment d'un livre d'Ayerdal. Et puis aussi de Marin Le Dain. On en parle souvent. Caril Ferré, j'en parlais il y a deux minutes. Antoine Chénas, Craig Johnson. Voilà, il y en a comme ça, Didier Deninck, il y a toute une liste. Et
Zygmunt.
Voilà, et on finit par Z comme Zygmunt Milosevski, le Polonais qui a sorti son premier roman en français, qui a été traduit pour la première fois chez Mirobol Édition. Voilà, donc tout ça, j'espère que ça vous a un petit peu appâté, mais regardez tout simplement, hein, je peux pas vous raconter tout, ni vous dire tous les auteurs, j'en oublie un de taille, Georges Pelecanos, l'américain. Regardez, quaidupolar.com, la programmation, il y a le bouquin entier de tout ce qui peut se passer, des jeux, des enquêtes à travers la ville. Et on va peut-être écouter un petit peu de musique.
Même si Google se débrouille bien, c'est Quai du Polar, mais Quai avec un S.
Ah parce oui, Quai du Polar en un seul mot.
Il y a le Rhône, la Saône, donc ça fait beaucoup de quais.
Voilà.
Un petit peu de musique.
Qu'est-ce que nous allons écouter ?
Eh ben, nous allons écouter un album de Wilco Johnson et Roger Daltrey. Donc, vous les connaissez tous les deux, très probablement. Wilco Johnson, c'était le guitariste de Dr. Feelgood. Roger Daltrey, le chanteur des Who. Et ils ont décidé, ça faisait un petit moment qu'ils voulaient faire un album ensemble, et ils se sont décidés finalement à le faire, vu que Wilco Johnson n'en a plus tellement pour longtemps à vivre, donc ils se sont dit que s'ils le faisaient pas maintenant, ils le feraient jamais, et donc ils ont enchaîné sur une tournée. Et cet album est tout à fait magnifique, c'est essentiellement des reprises de titres de Wilco Johnson, donc de Dr. Feelgood, avec une reprise de Dylan. Et ben voilà, c'est tout beau, c'est basique, hein, c'est comme le Dr. Feelgood, du rhythm and blues pur à l'anglaise, basse, guitare, batterie, voix, avec dans ce morceau il y a un petit piano, parfois un peu d'harmonica. Le morceau qu'on va écouter est très bien pour une émission sur le polar, ça s'appelle Everybody's Carrying a Gun, donc tout le monde a un fusil. Écoutons Wilco et Roger. Roger Daltrey, Wilco Johnson. Et oui, Roger Daltrey a quand même 70 ans depuis le 1er mars. Donc, je trouve, il a peut-être plus les aigus de I'm Free, mais il a encore une belle voix. Donc, nous allons parler d'un roman français de Jean Contrucci, qui s'appelle Rendez-vous au Moulin du Diable, qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Ça fait longtemps que, pour les habitués de l'émission, que vous n'avez pas parlé de Raoul Signoret et de son oncle. Leur dernière enquête date sur le papier de septembre 2011. Mais elle se déroulait en 2008. 2 ans et demi plus tard, nous sommes toujours en 2008, mais ce coup-ci en automne. Les deux enquêtes se suivent de près, en fait. Elle va commencer par le rapt, l'enlèvement d'un jeune garçon d'une famille de la bonne bourgeoisie marseillaise, non loin du jardin du Faro. Duquel jardin, d'ailleurs, vous pouvez admirer le superbe Mucem de l'autre côté du port, mais ça n'a rien à voir avec le roman. Mais non, néanmoins, c'est bon à noter. Alors on revient au petit Raoul, petit Paul, pardon. Paul, il a été pratiquement arraché des bras de sa nourrice. Et c'est Raoul, notre Raoul Signoret, petit reporter, non, reporter au petit Provençal, qui va être chargé de remettre la rançon contre l'avis de la police et donc contre l'avis de Jean Baruteau, le chef de la sûreté marseillaise et l'oncle de Raoul. Je fais une rapide petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série des nouveaux mystères de Marseille qui date de 2002. Elle commençait avec l'énigme de la Blancarde où Jean Contrucci, raconte le Marseille de la fin du 19e et du 20e et début du 20e siècle à travers des intrigues mettant en scène Raoul Signoret, Eugène Baruteau et Cécile, la femme de Raoul. Les enquêtes se déroulent à chaque fois dans un quartier de Marseille différent. Certains d'ailleurs n'étant même pas dans Marseille à l'époque. Cet épisode, lui, se déroule en grande partie à Saint-Henri, à l'Estaque, donc vers le bord de mer côté ouest. Et c'est là d'ailleurs qu'est situé le Moulin du Diable qui donne le titre au roman. Et c'est là d'ailleurs que va se dérouler une partie du drame. Si l'enfant est assez vite retrouvé, qu'il a été enlevé, donc là on a payé une rançon, il est libéré, l'enquête n'en est pas moins terminée. Dans ce roman, Jean Contrucci nous a concocté une très belle intrigue qui prend d'ailleurs plus d'importance peut-être que dans certains des romans préférés. Une fois de plus, l'association oncle-neveu fonctionne parfaitement. Mais ce n'est pas une intrigue pour l'intrigue, car Contrucci s'intéresse comme toujours plus aux gens qu'aux faits. On a de beaux portraits de la nourrice effondrée, d'avoir laissé enlever l'enfant dont elle avait la charge, et aussi de la jeune mère trop faible, trop soumise pour dire quoi que ce soit, et du père arrogant et fielleux comme seuls les riches parvenus savent l'être. Il y a aussi quelques magistrats dédaigneux, préférant ne pas froisser un notable plutôt que de faire une enquête dans les formes. Et toujours en trame de fond, ce Marseille en train de se construire, ceux des notables qui se construisent leur fortune se bâtissant sur le dos des petites gens. Bref, vous le savez, on est fan, c'est régalant, c'est instructif et distrayant, car Jean Contrucci ne tombe jamais dans le pathos, dans le simple but sordide d'appâter ses lecteurs. Il réussit toujours à nous entraîner au basque de ces deux enquêteurs, Raoul et Eugène, dans une superbe histoire. Donc je rappelle, Jean Contrucci, rendez-vous au Moulin du Diable, paru chez Jean-Claude Lattès ces jours-ci.
Voilà, et bien on arrive à la fin de notre émission. On va vous dire au revoir, vous souhaiter d'être chacun dans votre coin avec un bon bouquin et de se vous retrouver quand même pour en parler les uns avec les autres.